La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour, chers auditeurs. Quel levier s'approprier pour aspirer à l'excellence et à la performance dans le monde du sport et des collectivités territoriales? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Madame Magali Bâton. Bonjour Magali.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes coach certifié HEC, médaillé mondial de judo et 5 fois médaillé européenne. Magali, pourriez-vous vous présenter brièvement?
Magali Bâton, ancienne sportive de haut niveau en judo, entre les années 91 et 2001, où j'ai eu la chance de représenter la France avec en point d'orgue à ma carrière, place de 3 en championnat du monde en 97, et puis 5 médailles européennes. J'ai également participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. À la suite de ma carrière, j'ai assuré ma reconversion dans un premier temps dans la préparation mentale exclusivement, c'est-à-dire que je suis restée dans le milieu sportif et j'ai accompagné les sportifs judo, mais pas que. J'avais besoin un peu d'élargir mes horizons pour les accompagner sur le meilleur chemin vers la performance, en tout cas du côté mental. Et puis il y a eu un moment où j'ai eu besoin encore d'élargir mon horizon et je suis allée me former au coaching à HEC pour aller du côté de l'entreprise, voir comment ça se passait. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je suis effectivement coach certifié HEC depuis 2008, donc depuis plus de 10 ans. Et j'interviens plutôt dans le monde des entreprises, même si je garde la préparation mentale pour les sportifs sous la coupe pour le plaisir.
Magali, pour reprendre un acronyme né dans le monde militaire, on peut dire que l'environnement des collectivités territoriales est de plus en plus complexe, volatile, incertain et ambigu. Comment votre expérience du sport de haut niveau vous permet-elle d'accompagner des cadres face à l'incertitude et garantit-elle le goût du challenge?
Alors, dans un premier temps, je suis obligée de parler du phénomène de projection parce que finalement, quand j'accompagne un client, il a tendance à se dire « Waouh, c'est une ancienne championne, forcément elle va m'aider ». Alors, dans ce phénomène de projection, il y a des choses qui sont fantasmées, bien évidemment. Pour autant, il y a quand même certaines choses qui sont terriblement vraies parce que le propre du haut niveau, ça va être d'être capable de surmonter l'incertitude d'une situation pour aller vers la performance. Donc, c'est vrai que les sportifs de haut niveau, souvent, on a intégré dans notre pratique, dans notre mode de fonctionnement, je reprends l'acronyme également, hein, tout ce qui est complexité, volatilité, incertainabilité et ambiguïté des situations, ça fait partie quelque part de notre ADN. Après, au-delà de ça, je vais faire un petit pas de côté pour aller sur un élément théorique. Dans les années 70, il y a un monsieur qui s'appelle Kobasa, qui travaillait pas du tout dans le sport de haut niveau, mais plutôt dans le milieu hospitalier, qui a mis à jour les caractéristiques de ce qu'il a appelé la personnalité hardy. Et je trouve ça très intéressant parce que la plupart des sportifs, on dispose des traits de cette personnalité. Donc, très rapidement, hein, ce que lui, il a découvert dans le monde hospitalier, c'est que les personnes qui disposaient de cette personnalité résistaient mieux au stress et il y avait moins d'absentéisme. Et donc les caractéristiques, c'est un grand sens de l'engagement, c'est-à-dire que ces personnalités-là avaient tendance à plus s'impliquer dans tout ce qu'elles faisaient par rapport à toutes les situations qu'il leur était donné de rencontrer. Elles étaient motivées, elles étaient plus actives et elles étaient très enthousiastes, par rapport à la vie en général et puis surtout par rapport à leur travail. La deuxième caractéristique, c'est la maîtrise. C'est-à-dire qu'elles avaient un sens de la maîtrise qui était plus développé que leurs collègues. C'est-à-dire qu'elles avaient plus confiance en elles. Elles avaient plus confiance dans leur capacité à atteindre des objectifs. Et du coup, elles se sentaient plus capables de bien répondre aux contraintes extérieures. Et puis, la troisième caractéristique, c'est la notion de challenge. Ce sont des personnes qui se sentaient vraiment capables de relever les défis qui leur étaient proposés dans le cadre de leur travail. Elles étaient très attirées par la nouveauté. Et c'est-à-dire qu'elles voyaient le changement non pas comme une contrainte, mais plutôt comme un stimulus. Alors, les sportifs de haut niveau, je crois qu'on est typiquement là-dedans. Et en tout cas, moi, je me reconnais complètement là-dedans. Ce qui veut dire que, pour revenir à la question et comment moi je peux accompagner les cadres face à l'incertitude de l'environnement, je les engage à questionner leur rapport à ces trois dimensions-là, que sont l'engagement, la maîtrise et le défi, parce que plus on va être élevé sur ces trois dimensions-là, et plus on sera apte à faire face à ces environnements-là. Donc voilà comment moi, je les accompagne en tout cas, et je pense que ça leur donne des billes pour avancer.
Merci Magali. Vous avez déjà, je dirais, très clairement répondu à ma question suivante, mais néanmoins, je vais tout de même vous la poser. Selon vous, quels seraient les points particuliers que les cadres en poste, en collectivité, pourraient apprendre des sportifs de haut niveau?
Alors, évidemment, au-delà de ce que j'ai déjà dit, je crois qu'ils peuvent s'inspirer, enfin, moi j'ai tendance à leur dire de s'inspirer de ce que moi j'appelle les fondamentaux de la réussite. C'est-à-dire que tout va ensemble. Mais je crois que la première question à se poser, c'est pour quelle raison je me lève chaque matin, quelque part. C'est-à-dire quel sens je donne et comment je suis motivée dans le cadre de ce que j'ai à faire. Et ça, c'est fondamental, de pouvoir identifier ça. Parce qu'à partir de là, tout va se décliner. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va pouvoir, le deuxième point dont pourraient s'inspirer les cadres par rapport aux sportifs de haut niveau, c'est tout ce qui concerne la fixation d'objectifs. Vous savez, les objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, fixés dans le temps et réalisables. Et donc, être capable de s'en fixer sur du court terme, sur du moyen terme, et sur du long terme, parce que évidemment, à chaque fois, ça va entretenir la motivation dont je parlais sur le premier point. Donc, se fixer des objectifs. Après, bien évidemment, identifier nos alliés, identifier vos alliés. C'est-à-dire, on a toujours tendance à croire, je reviens un petit peu, je fais un pas sur les sportifs de haut niveau, on voit toujours le champion comme s'il était tout seul. Bon, sauf peut-être dans le cas des sports collectifs. Moi, en judo, je viens d'un sport dit individuel, d'ailleurs faussement individuel, parce que nous, on a des partenaires d'entraînement quand même, faut pas l'oublier. Donc, comment est-ce que j'identifie mes alliés? C'est-à-dire, ben, derrière le sportif de haut niveau, on a un staff. C'est-à-dire qu'on a à minima un entraîneur, mais souvent, il y a deux ou trois ou quatre entraîneurs qui vont être sur des voilà sur la tactique, sur le physique, sur etc etc. Il y a un staff médical également qui nous entoure, voilà, et puis on a tout ce qu'on appelle les partenaires d'entraînement. Donc après vous, dans le cadre des objectifs, hein, quand on est cadre en place, hein, des objectifs qu'on se fixe, quels sont mes alliés, sur qui je peux m'appuyer, et ce qui va avec, c'est sur quoi je peux m'appuyer aussi, quelles sont mes ressources, pas seulement humaines. Après, ce que je mets aussi dans les fondamentaux de la réussite, c'est un grand sens de la détermination. Les sportifs sont tous extrêmement déterminés, dans les sportifs de haut niveau, dans ce qu'ils ont à faire. Et puis peut-être quelque chose que je mets absolument pas en dernier, je le liste comme ça en dernier, mais c'est quelque chose qui est fondamental, c'est la capacité à se remettre en question. La question, c'est comment est-ce que je peux faire mieux une prochaine fois, ou comment je pourrais faire différemment une prochaine fois. C'est vrai que quand on a gagné les Jeux Olympiques, aller se poser cette question, on nous dira bah, comment j'aurais pu faire mieux, c'est pas évident, parce que le premier réflexe, c'est juste de savoir. Et pour autant, les grands champions, ils reviennent systématiquement sur leur compétition pour regarder qu'est-ce qu'ils ont réussi et chercher les pistes d'amélioration pour une prochaine fois. Donc quand je dis la question, c'est comment est-ce que je peux faire mieux une prochaine fois, ça peut être comment je peux faire différemment, quelles seraient mes alternatives, comment j'aurais pu les prendre autrement et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place la prochaine fois. Voilà, ça c'est des choses comme ça que j'ai tendance à lister sur de quoi peuvent s'inspirer les cadres par rapport aux sportifs de haut niveau.
S'agissant des sportifs, le déroulement de leur carrière est court, ou tout du moins accéléré. En moyenne, une carrière sportive est d'une durée de 10 ans et elle s'achève, bien entendu, par une reconversion. Dans le monde de l'entreprise ou des collectivités, on retrouve un certain nombre d'éléments semblables à ceux d'une carrière sportive, c'est-à-dire des moments associant le temps et un événement, comme par exemple la recherche de l'excellence, les remises en question, les échecs et les succès dont vous avez parlé, la fin de carrière et bien sûr la reconversion. Pour les collectivités territoriales, le temps est quant à lui rythmé par les élections de l'organe délibérant. J'aimerais que vous nous parliez de votre rapport au temps dans ces deux univers, sport et collectivité territoriale.
Alors, il y a la première chose, c'est qu'il y a un côté inéluctable, et ce côté inéluctable du temps qui passe, il est valable pour tout le monde. Et à partir de là, ben, l'idée, c'est de l'accepter et de faire avec. Le sportif de haut niveau, quand il a 20 ans, il se pose jamais la question de sa fin de carrière. Parce que il y a une espèce d'insouciance, il y a une espèce de toute puissance aussi. On parle souvent de l'immortalité des sportifs de haut niveau. En réalité, la question de cette fameuse question de la fin de carrière et donc de la temporalité, elle se pose en cas d'échec à répétition, ponctuel ou à répétition, ou en cas de blessure. Si je prends mon cas, donc moi j'ai intégré l'INSEP, j'avais 20 ans. L'INSEP, c'est le centre d'entraînement de haut niveau, en tout cas pour le judo. Et donc j'avais 20 ans. pendant les 3 premières années, j'ai foncé. Je me levais le matin, j'allais m'entraîner, etc. Et je me posais vraiment aucune question. Et puis, en 94, donc à 23 ans, je me suis blessée, je me suis fait les croisés, je me suis rompu les croisés. Et donc là, j'étais arrêtée sur le bord de ma trajectoire sportive. Et ce temps-là, il est souvent, il est terrible parce qu'on voit tout le monde qui s'entraîne à côté, et c'est le moment des doutes. C'est vraiment le moment du doute parce que ce mythe-là de l'immortalité, il touche à sa fin. On s'aperçoit qu'on a une finitude en termes de carrière et de sport de haut niveau. Et du coup, ce que j'en ai tiré comme apprentissage, c'est que finalement, cette blessure, ce temps-là de la blessure chez les sportifs de haut niveau, s'il est bien géré, c'est souvent une opportunité pour repartir plus fort derrière. Je parle évidemment mentalement parlant, psychologiquement parlant, parce qu'évidemment il y a tout le côté physique. Mais à partir du moment où on est en pleine conscience de ce côté éphémère de la carrière, on est mieux à même d'en profiter du quotidien et du côté extraordinaire de ce qu'on a la chance nous de vivre. Donc finalement mon accompagnement c'est je fais un petit pas de côté aussi pour aller vers votre monde. Dans les collectivités territoriales, c'est pareil, vous êtes aussi soumis à une forme de temporalité avec les fameuses échéances des élections. Ce qu'il y a de commun dans les deux cas, c'est ce côté, les cartes sont données et ça, on n'a pas la main dessus. Donc à partir de là, moi, la manière que j'ai d'accompagner les cadres, c'est finalement de les inviter à regarder ce qui est en leur pouvoir dans un environnement donné. Les cartes, quand elles sont données, on n'a pas la main dessus. Par contre, avec le jeu dont on dispose, on a toute une marge de manœuvre. Et alors, du coup, enfin, les philosophies orientales, elles nous parlent de plutôt que de vouloir changer le monde, essayer de commencer par se changer soi-même. Alors, c'est repris aujourd'hui avec la légende du colibri et ces choses-là, mais moi, je crois beaucoup en ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire? C'est comme ça que j'accompagne les cadres. C'est vous, là, dans le jeu que vous avez, avec les cartes qui vous sont données, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à votre objectif, par rapport à votre mission? Et ensuite, parce que vous, à votre niveau, vous allez changer certaines choses, par capillarité, autour de vous, votre environnement va pouvoir changer. Alors après, aussi en coaching, je m'inscris largement dans une approche systémique et ma conviction, elle est que quand on change quelque chose à un niveau dans l'organisation, d'autres choses vont changer par ailleurs. Donc je regarde en même temps les changements, enfin tout ce qui se passe au niveau systémique en tout cas, que ce soit les changements comme les répétitions.
Notre émission touche à sa fin. J'aurais deux questions pour terminer notre entretien. La première, le judo est un sport d'engagement. Que vous apporte-t-il pour travailler la posture des personnes que vous accompagnez? Puis la seconde sera... Comment créez-vous les conditions de l'émergence de la performance chez les personnes qui vous accompagnez? Alors, si vous me permettez, on revient à la première. Le judo est un sport d'engagement. Que vous apporte-t-il pour travailler la posture des personnes que vous accompagnez?
Alors, oui, le judo est un sport d'engagement. Pour autant, la première chose qui me vient, moi, quand je parle de judo, le judo, c'est la voie de la souplesse. Et c'est intéressant de le voir comme ça parce que la légende, je fais très rapidement la légende du judo. Le Jigoro Kano, qui est le fondateur du judo, il aurait inventé la philosophie du judo en observant la nature. Et donc c'est un hiver très froid au Japon, et en observant un grand chêne avec des branches majestueuses, etc. Il s'est aperçu que ce chêne, sous le poids de la neige, ses branches ont cassé. À côté de ça, à côté du chêne, il y avait un saule pleureur. Et lui, ce pleureur, finalement, avec le poids de la neige, il s'adaptait, c'est-à-dire qu'il laissait tomber la neige et puis il reprenait sa forme initiale. Et c'est comme ça qu'est née l'idée, qui a germé en tout cas l'idée du judo dans la tête de Jigoro Kano. Ce côté-là d'utiliser la force de l'autre, c'est l'essence même du judo. Pour répondre à la question, finalement, qu'est-ce que ça m'apporte pour travailler la posture des personnes que j'accompagne? Alors déjà, moi, à mon niveau, je m'adapte toujours à la problématique de mon partenaire de coaching, quelque part. C'est-à-dire que je vais utiliser leur force, leur connaissance, leur compétence, pour que eux soient capables de s'en servir pour résoudre leurs problématiques. Donc ça, pour moi, c'est important. Alors Par contre, je réponds quand même à votre question. Oui, bien sûr, c'est un sport d'engagement. Et comme tout le haut niveau, de toute façon, est une question d'engagement, donc c'est une question centrale. C'est-à-dire que c'est essentiel de vérifier d'abord leur engagement, bien évidemment, dans le travail qu'on effectue. Ça, c'est évident. Et sur le principe de la systémique, s'ils sont capables de s'engager dans le travail, ils seront capables de s'engager ailleurs dans leur vie, que ce soit dans leur travail, dans leur mission et dans leur vie au quotidien. Et de toute façon, je vais les questionner sur leur engagement dans leur mission. Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qui les motive? Tout ce qu'on a déjà vu dans le cadre de notre entretien.
Comment créer les conditions de l'émergence de la performance chez les personnes que vous accompagnez? En fait, également, comment coacher l'excellence?
Alors, la première chose, c'est que fondamentalement, je leur fais confiance. Et c'est rigolo parce que souvent, j'ai plus confiance en eux que eux-mêmes ont confiance en leur capacité à relever un challenge. Mais ça, c'est hyper important, quelque part. Et donc ça, c'est le premier point. Et puis le second, ce qui est essentiel, c'est de poser un cadre qui va être sécurisant pour que eux puissent s'épanouir et aller chercher justement leurs ressources. Alors, un cadre sécurisant, comment on fait? D'abord, fondamentalement, je crois que c'est hyper important de respecter le rythme du client. C'est-à-dire que chaque client a son rythme et il n'y a pas de bon rythme absolu. Donc, respecter ce rythme-là, ça va les mettre en confiance. Et puis, en termes de cadre, ce qui va être important, c'est de les accompagner dans la bienveillance et en même temps dans le challenge. C'est-à-dire que moi, de par ma personnalité, je suis quelqu'un qui va aller les confronter, qui va aller les challenger. Par contre, je m'assure que ce soit toujours fait de manière bienveillante et que ce soit reçu de cette manière-là. Et très souvent, ça suffit largement pour créer les conditions de la performance parce que les personnes que j'accompagne, elles sont performantes. Elles le savent pas toujours, mais elles sont quasiment toujours performantes.
Merci beaucoup Magali de votre témoignage et regard porté sur ces questions. Je rappelle
avec plaisir.
Merci beaucoup Magali. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes coach certifié HEC, médaillé mondial de judo et 5 fois médaillé européenne. Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.